Christiane Hervault et Jean-Paul Sauzède vous présentent
Dans la famille, il y a la mère et le père, ou deux pères, ou deux mères, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers dans la famille.
Ah, la famille. Que bazar.
Bonjour. Bienvenue pour notre émission consacrée à la famille. Lors de notre première émission, le mois dernier, nous avons présenté le programme trimestriel de nos émissions et donné quelques éléments d'introduction à la famille en disant l'importance de la famille, le pourquoi de cette importance, et nous avons évoqué un peu la parentalité, la conjugalité, voilà. Mais aujourd'hui, avec Jean-Paul Sauzède, mon fidèle co-animateur,
Nous
allons parler de ce qui structure une famille, à savoir le projet, l'engagement, les frontières, des hiérarchies claires, des fonctions claires.
Et ben voilà, va falloir expliquer tout ça.
Ah oui, quatre éléments qui permettent à une famille de fonctionner à peu près sainement, m'a-t-on dit.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, alors Jean-Paul, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire le projet, l'engagement. Un projet, pourquoi ? Est-ce que c'est indispensable ? À quoi ça sert ?
Voilà, et puis on peut déjà regarder qu'est-ce que c'est qu'une famille, comme nous venons chacun d'un père et d'une mère, et donc on a fait famille au moins avec nos parents. C'est quoi pour vous une famille ? C'est quoi pour vous votre famille ? En dehors du fait que ce sont des éléments, donc on pourra dire ben, c'est papa, c'est maman, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des grands-parents. Ok, mais ce qui nous intéresse dans la famille, c'est pas simplement la somme des éléments qui la constituent, mais c'est les interactions, c'est-à-dire comment ça agit entre les différentes personnes. Ça agit par des dons, ça agit par la parole, c'est-à-dire ça agit par de l'échange, par du donner et du recevoir. Ça agit par des messages que l'on donne ou que l'on cache, il y a des secrets de famille. Ça agit donc par l'interaction, c'est-à-dire c'est des visites qu'on va faire à droite et à gauche, c'est des cadeaux qu'on va se donner, c'est des messages que l'on va échanger, c'est des temps qu'on va partager, on va s'accueillir, on va se recevoir ou pas. Et c'est toutes ces transactions-là qui créent un système familial. Un système, ce n'est pas que la somme des éléments qui le constituent, donc le papa, la maman, les enfants, etc., c'est les interactions qui le constituent. Et ce qui va nous intéresser à regarder les familles, à les observer et à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une famille fonctionne ou dysfonctionne, c'est la qualité des interactions qui vont la régir. C'est comment elle va avoir des transactions entre elles, c'est-à-dire des modes de communication, des modes d'échange, des modes de rencontre, des manières de donner et de recevoir qui vont justement marquer la qualité des liens ou la qualité des liens au sein de la famille. Donc, un des premiers éléments, c'était ça que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est justement la qualité des frontières. C'est-à-dire qu'une famille va avoir un certain nombre de transactions, va avoir des échanges, va avoir des modes d'organisation. Mais ce qui fait qu'une famille va être à peu près stable, saine, c'est la qualité des frontières qu'elle va établir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au sein d'une famille, il y a des espaces qui sont réservés, qui sont limités. Il y a des temps qui sont limités aussi, qui sont réservés. Par exemple, ça peut être d'aller vérifier que chacun ait sa chambre, ou s'il n'a pas sa chambre parce qu'on n'en a pas les moyens, chacun ait un espace qui lui soit propre. Ça peut être parfois juste un bureau, un tiroir dans le bureau. C'est d'aller vérifier si tout le monde a les codes d'ordinateur des uns et des autres. Alors les codes, c'est secret, c'est justement pour manifester une forme de confidentialité. Est-ce que ces codes-là, ils sont connus de tout le monde ? Est-ce qu'ils sont accessibles ? Est-ce que monsieur a les codes informatiques de madame et réciproquement ou pas ? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les avoir ou qu'il faut que tout le monde partage. C'est juste d'aller vérifier comment ces frontières, ces codes, ces espaces, si on reprend les espaces géographiques, sont accessibles, sont nommés ou sont cachés, masqués et interdits. Et comment il y a un consensus au sein du système familial sur la manière dont les frontières sont respectées, reconnues ou pas. Par exemple, chez des adolescents, ils sont souvent à dire, parfois il y en a qui mettent « frapper avant d'entrer sur la porte de leur chambre ». C'est une manière de dire « ça, c'est chez moi, et si tu veux pas rentrer, et je ne veux pas que n'importe qui rentre, ou en tout cas pas n'importe comment ». Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rentrer, pour certains, Pour certains, on n'a pas le droit de rentrer. Pour d'autres, on a le droit de rentrer, mais pas n'importe comment. Il faut frapper avant d'entrer, même si c'est un enfant de 8 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est la même chose aussi sur les petits carnets secrets, ce que parfois des enfants appellent leur carnet secret, leur carnet intime. Ben, ils le rangent parfois dans des boîtes à fermer à clé, précieusement, justement pour préserver une forme d'intimité, de secret. Et d'autres, et parfois des parents vont vouloir intruser cet espace-là en se disant ben, « si c'est mon enfant, j'ai quand même bien le droit de savoir ce qu'il écrit, il a rien à me cacher ben, ». Si justement, une famille, c'est un ensemble d'éléments en interaction dans laquelle il y a des frontières, où il y a des choses qui se cachent, qui ne se disent pas, parce que c'est le respect de l'intimité, c'est ce qui va favoriser la construction de la personne, et il y a besoin de ça. On peut le dire la même chose aussi sur les agendas, on peut le dire sur les espaces, dans la maison, il y a des familles où parfois la salle de bain est toujours ouverte. La porte de la salle de bain est toujours ouverte, ce qui peut surprendre certains en disant ben, « quand même, on a besoin d'intimité, si on prend sa douche, si on se lave, on n'a pas besoin que tout le monde en passant dans le couloir puisse observer ce qui se passe à l'intérieur de la salle de bain ». Et là aussi, c'est intéressant de regarder est-ce qu'on ferme les salles de bain à clé. Est-ce qu'on laisse la porte ouverte? Est-ce qu'on laisse la porte fermée sans la fermer à clé? C'est des codes, tout ça. C'est des codes qui vont construire la famille autour de ces frontières qui vont être claires ou pas claires. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est entendu comme ça? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Bien sûr, si on regarde toutes les histoires incestueuses ou incestuelles, incestuelles, c'est quand il y a des débordements de frontières intergénérationnelles ou en tous les cas au niveau d'une intimité, en particulier une intimité sexuelle. Incestueux, c'est quand il y a un passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a une mise en acte de ces débordements de frontières. C'est bien de ça dont ça parle aussi, c'est qu'il y a des frontières qui ne sont pas clairement respectées. Bien sûr, ça se joue dans cet espace-là, dans la chambre des parents. Est-ce que les parents laissent entrer le chien, les enfants, les voisins, pour visiter parfois, ou pour faire une visite, parce que monsieur est encore au lit, ou bien parce que c'est le matin et que tout le monde se retrouve dans le lit, et pourquoi pas, ça peut être très sympathique et chaleureux, mais ça peut être aussi un espace de débordement, de gestes qui débordent les frontières du respect de l'intimité, de l'intégrité de la personne, de son espace. Voilà, donc une famille, c'est cet ensemble d'interactions entre les membres qui la constituent et où il y a besoin d'avoir des frontières qui soient claires, au sens... Elles ont besoin d'exister, elles n'ont pas besoin d'être rigides, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont totalement interdites et en même temps, il y a des limites qui sont à respecter, sans quoi il y a un débordement d'intégrité, il y a une viol de l'espace privé, intime, qui va créer des problèmes au sein de la famille.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul. Vous avez sauté un pas avant moi. Alors, en tout cas, j'avais commencé par dire, mais... Ça se rejoint évidemment, puisque nous parlons de la famille. J'avais commencé par le projet, mais peut-être j'ai été trop vite, moi.
Non, c'est moi qui suis allé trop loin.
Peut-être c'était le projet et l'engagement.
Oui.
Mais peut-être c'était... voilà. Et de toute façon...
Ça marche aussi.
Ça marche aussi.
C'est la suite, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, un système, pour fonctionner, il va avoir besoin d'un projet, d'un aller vers, quelque chose qui l'oriente, qui le pousse. Et c'est intéressant que des familles qui n'ont pas de projet ensemble... C'est-à-dire qu'ils ne se revoient pas, ils ne fêtent pas les anniversaires, ou ils ne fêtent pas Noël, ou les fêtes religieuses, ou ils n'ont pas d'occasion de se voir, parfois parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas de lien ensemble. C'est un système qui devient mort, ce n'est plus un système familial, ce n'est plus une famille, c'est un agrégat, une sorte d'ensemble de personnes qui existent parce qu'ils ont le même nom, parce qu'ils viennent de la même origine, mais pour autant, comme il n'y a pas de dynamique, au sens qu'il n'y a pas quelque chose qui les pousse vers un projet, il n'y a pas une unité familiale qui est orientée, qui est portée par une énergie vers quelque chose, vers un aller vers, cette famille n'existe plus. Et on rencontre parfois des personnes qui disent « mais moi, ma famille, elle ne m'intéresse pas, et d'ailleurs, il ne se passe rien ». Et quand il ne se passe rien, effectivement, le système familial, le système n'existe pas et la famille, du coup, s'étiole et peut-être meurt. Donc il y a besoin dans un système, quel qu'il soit, et j'ai un système, ça peut être une classe d'école, ça peut être un groupe d'amis, bien sûr, ça peut être un groupe de paroisse, ça peut être un cercle de sportifs. Ils ont un projet, ils ont un aller vers, ils ont un intérêt commun qui fait qu'il y a une raison d'avoir des interactions ensemble et d'exister en tant que système. Donc une famille a besoin d'avoir un projet. Le projet, ça peut être parfois de se retrouver pour fêter les anniversaires, et c'est très bien. Ça peut être de s'occuper des grands-parents qui sont vieillissants. Ça peut être de s'occuper de la maison familiale quand on en a. Ça peut être d'avoir un intérêt commun sur un film, sur une série qu'on va suivre et dont on va parler ensemble. Ça peut être un intérêt autour d'un sport particulier sur lequel on s'est passionné, les enfants sont formés, les parents suivent. Enfin, il y a une dynamique qui se crée autour de quelque chose. Et s'il n'y a pas cette dynamique, il n'y a pas cet intérêt vers un intérêt commun, ou en tous les cas partagé avec certains éléments du système, donc certains membres de la famille, effectivement la famille va s'étioler et en quelque sorte on pourrait dire qu'elle va fondre au risque de ne se dissoudre.
Est-ce qu'au départ, il s'agit aussi qu'il y ait un projet, alors j'anticipe un peu sur le couple, mais en fait, est-ce qu'au départ, s'il y a un projet de couple entre hommes et femmes qui se rencontrent, qui décident de vivre ensemble et qui s'engagent, est-ce que déjà ça c'est un projet à partir du moment où on a envie d'avoir des enfants et de fonder une famille? Déjà là, il y a un projet de vie parent-enfant.
Bien sûr, il y a déjà un projet dit qui va être porté par le couple conjugal, qui va être justement de créer une famille. Et le fait de créer une famille, c'est-à-dire c'est créer du lien, c'est créer des événements on va célébrer ce lien. Ça peut être pas seulement les fêtes de famille, mais ça peut être simplement le repas du soir, d'aller voir un film ensemble, d'accueillir un voisin, des amis, de faire un repas commun, de participer à une association ou à un groupe quelconque. Il y a donc un aller vers qui va être en particulier porté par le couple conjugal qui a la responsabilité première de cette dynamique familiale.
Oui, surtout quand les enfants sont plus petits, peut-être.
En plus, quand les enfants sont petits, c'est
quelque chose, peut-être, avec les adolescents, plus ou moins, qui veulent aussi leur indépendance. C'est un petit peu différent. Mais après, au fur et à mesure, il y a des choses qui se construisent et où on a plaisir à se retrouver, on a plaisir à vivre des choses ensemble.
On partage. Oui,
voilà,
il y a de l'interaction. Il y a du donner et du recevoir, il y a de l'interaction. Et un système, une nouvelle fois, c'est l'interaction des éléments entre eux qui crée cette dynamique familiale, en l'occurrence.
Donc, vous nous avez entraînés vers la question des frontières.
Peut-être tu peux rajouter un élément encore sur les frontières.
Oui, bien sûr, voilà, j'allais vous tendre la perche.
Parce qu'on a parlé beaucoup des frontières, ce que j'appellerais des frontières horizontales, c'est-à-dire des frontières entre les parents, et les enfants, entre les enfants entre eux, donc cela au niveau de la fratrie. On a parlé des frontières spatio-temporelles, c'est-à-dire des frontières dans l'espace, c'est-à-dire comment on partage l'espace de la maison, les chambres, la salle de bain, le jardin, l'espace commun, la terrasse, l'ordinateur aussi. Et puis, il y a aussi les frontières temporelles, c'est-à-dire comment, dans le temps, on a des espaces qui nous sont communs et familiaux. Souvent, en général, c'est les repas du soir, mais ça peut être de regarder un film. Et puis, il y a des temps qui sont perso. J'ai besoin d'être dans ma chambre, et ça, c'est mon espace, mais d'être seul pendant un temps. J'ai besoin de prendre des vacances tout seul. J'ai besoin d'avoir un temps en solitaire. Et ça fait partie des frontières aussi temporelles dont les éléments d'une famille ont besoin pour pouvoir se sentir exister. Ça, c'est les frontières horizontales. Et il y a aussi des frontières verticales. Ce qu'on appelle dans mon jargon des frontières verticales, c'est les frontières avec les familles d'origine. Par exemple, c'est les grands-parents, ça peut être aussi les oncles et tantes, qui parfois font intrusion dans la famille, parfois de façon abusive ou en tous les cas exagérée, au sens où la visite des grands-parents ou la visite aux grands-parents, aux oncles et tantes, à la famille dans la génération d'au-dessus, sont parfois des contraintes excessives, mal vécues, qui empêchent le système familial, si on regarde les parents et les enfants, de pouvoir exister librement parce qu'ils se sentent dans l'obligation d'eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir ses grands-parents, hein, loin de là. Je dis que c'est aussi une négociation à avoir, un accord à avoir pour que ces frontières perpendiculaires avec la génération d'au-dessus soient claires et que les choses elles soient suffisamment parlées pour que ces interactions soient acceptées, supportées de part et d'autre.
Mmh. Quelquefois, un grand-parent vient habiter pendant quelque temps avec la famille.
Et pourquoi
pas ? J'ai connu ça dans ma famille, par exemple.
Bien sûr. Et pourquoi pas ?
Ma grand-mère venait parce que, voilà. Elle venait aux naissances, en général, parce qu'elle assistait aux naissances.
Oui, parfois, c'est un soutien.
Elle venait, puis elle restait un certain temps avec ma mère.
Ça peut être un soutien à la maman. Il y a parfois des parents qui sont trop âgés et qui viennent habiter chez les enfants. Et puis, parfois, il y a des parents qui s'intrusent. C'est-à-dire qu'ils téléphonent tous les jours, ou qu'ils viennent tous les week-ends, on ne peut pas échapper au repas familial, et parfois c'est trop. Et ça peut générer des problèmes, non seulement entre l'enfant des parents, mais aussi la belle-fille ou le gendre des parents en question, des grands-parents en question. Donc c'est encore une question de frontière qui vient marquer, qui permet de repérer comment ce système familial va fonctionner ou peut dysfonctionner suivant ce qui est en accord, suivant ce qui est convenu entre les éléments du système.
Quand vous avez parlé d'un espace personnel, et j'ai pensé aussi à la notion de bruit et de silence. Par
Tout
exemple, avoir un temps de silence, enfin, avoir son temps personnel, donc c'est aussi être peut-être dans un temps de silence parce qu'on a besoin ou d'écrire ou de simplement penser ou rêver.
Bien sûr.
Et donc, on a besoin d'être seul. Et quelquefois, la notion de bruit, avec le voisin qui met la musique à tue-tête ou quelque chose comme ça. Vous voyez,
oui.
Ça, c'est aussi des choses qui sont source de conflits, en fait.
Et qui fait partie des frontières.
Oui.
C'est des frontières spatiales, c'est des frontières auditives en particulier, mais liées à l'espace. Ça peut être le bruit des machines, le bruit de papa qui bricole dans le garage, le bruit des enfants qui écoutent de la musique trop fort. Ça peut être la télévision qui est trop forte aussi ou pas assez, la radio le matin au moment où on a besoin de dormir. Il y a plein d'éléments qui effectivement peuvent générer des tensions, parce qu'il y a un endroit où je ne me sens pas respecté dans mon espace d'intimité et de sécurité, d'intégrité, qui me permet de pouvoir me considérer à l'aise dans ce système familial.
Mmh.
Et tout ça, c'est bien sûr, il n'y a pas de norme. C'est la norme que le système familial va construire avec suffisamment de paroles, d'où la nécessité dans un système de savoir communiquer.
Mmh. Donc, quand il s'agit de frontières, est-ce qu'il y a aussi une notion, comme on l'a nommé tout à l'heure dans ces quatre éléments, de hiérarchie, du coup est-ce que c'est quand vous dites hiérarchie, par exemple, est-ce que c'est le système familial qu'il y a eu et qui n'existe peut-être plus trop maintenant, qui n'est plus le même peut-être, qui a évolué, qui a changé, qui était papa chef de famille, maman en dessous, et puis les enfants qui doivent obéir et ne discutent pas ou ne doivent pas interférer sur les ordres des parents, par exemple. Est-ce que c'est ça, les hiérarchies, ou est-ce que c'est autre chose?
Oui, c'est un peu autre chose, parce que dans hiérarchie, on l'entend vite comme s'il y avait un rapport d'autorité, voire de pouvoir, alors que ce n'est pas ça qui est en cause. En tout cas, dans ma conception, quand je parle des hiérarchies familiales, c'est qu'il y a une ligne générationnelle des grands-parents, il y a une ligne générationnelle des parents, il y a une ligne générationnelle des enfants. Ces trois lignes générationnelles distinctes, parce que ce n'est pas la même génération, et qui du coup ont des fonctions au sein de la famille qui vont être différenciées. Et la difficulté, c'est que ces lignes hiérarchiques soient suffisamment claires au sein de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où dans une famille, il peut y avoir un papa, par exemple, qui va être au chômage, ou qui va être dépressif, ou qui va être accidenté, ou une maman aussi qui peut être en difficulté avec elle-même, avec ses parents, avec sa santé. Et un des éléments de cette ligne hiérarchique parentale va être défaillant, va être fragilisé. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'un des enfants va prendre la place du parent défaillant, ce qu'on va appeler une parentification. C'est-à-dire qu'un des enfants va quitter sa ligne hiérarchique d'enfant pour prendre une responsabilité parentale, pour le bienfait de la famille. Donc il a une bonne intention en faisant ça, et ça arrange tout le parent qui est encore valide ou stable d'avoir un enfant à ses côtés pour assurer les responsabilités et le fonctionnement de la famille. Mais ça crée une distorsion dans la hiérarchie familiale, et à terme, ça peut générer des problèmes ou des difficultés au sein de la famille. La difficulté des lignes, quand les hiérarchies ne sont pas claires, c'est par exemple quand un des grands-parents s'immisce dans l'éducation de ses enfants en disant « Ah, à sa fille ou à son fils, tu ne devrais pas faire comme ça. Tu sais, avec ta femme et puis avec tes enfants, quand même, tu pourrais les reprendre, tu devrais les éduquer autrement ou leur faire des remarques désagréables. Et là, il y a une émission de la ligne hiérarchique des grands-parents sur la ligne hiérarchique des parents, sous prétexte du bénéfice pour la ligne hiérarchique des enfants, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, il y a quelque chose dans les lignes hiérarchiques d'un conflit, on pourrait dire d'une frontière, mais on va parler de lignes hiérarchiques qui ne sont pas suffisamment respectées. On connaît ça aussi de la part, aujourd'hui, dans certaines familles, on sait qu'il y a des enfants qui ont pris le pouvoir sur leurs parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas attendu qu'un des parents soit défaillant. Ils ont pris le pouvoir au sens, le programme télé, c'est eux qui ont décidé. La manière dont on va dépenser l'argent, en particulier sur des objets connectés, c'est eux qui ont décidé. Voire même d'aller à l'école, qui est une obligation, ils vont décider à la place des parents qu'ils n'iront pas ou qu'ils vont arranger leur emploi du temps comme ça leur convient. Et donc, il y a une inversion des hiérarchies où c'est la ligne des enfants qui a pris le pas sur la ligne des parents qui ont normalement la responsabilité familiale. Et là, bien sûr, ça va être vraisemblablement source de conflits dont on pourra parler par la suite.
Oui.
Donc, arriver à regarder que les lignes hiérarchiques soient respectées, c'est-à-dire qu'il y a une ligne des grands-parents, des parents et des enfants, qui soit suffisamment clair, dans lesquels chacun va assumer les fonctions. Parce que l'enjeu, ce n'est pas d'avoir en soi une ligne hiérarchique et de les repérer, c'est d'aller vérifier qui fait quoi pour qui, qui a quelle fonction dans cette famille. Et on peut estimer que c'est la responsabilité des adultes, en tout cas c'est notre fonction légale, en tant que parents, d'assumer une responsabilité à l'égard de nos enfants, et ce n'est pas aux enfants à prendre des décisions ou à prendre des orientations qui revient normalement de l'ordre de la responsabilité des parents. Ce qui ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas prendre de responsabilité, ce qui ne veut pas dire que les parents ne doivent pas écouter leurs enfants, ce qui veut dire juste qu'il faut que les responsabilités soient clairement identifiées, repérables, négociées au sein de la famille, ce qui demande à nouveau des capacités de communication, une capacité à se parler, à nommer les choses, au sein de la famille, ce qui est encore un autre problème.
Il peut y avoir, par exemple, un père, je pense à la guerre, par exemple.
Bien sûr.
Soit maintenant, soit autrefois, la guerre de 39-45, par exemple, où il y a eu des pères qui n'étaient pas là. Donc,
Bien sûr. Coup,
la mère
s'est
devait prendre d'autres responsabilités,
seule,
des choses.
Pas nécessairement défaillante, mais au contraire, très puissante, à devoir prendre énormément de responsabilités et à solliciter ses enfants pour se faire aider.
Voilà.
Mais ça parfois généré des difficultés, non seulement auprès de cet enfant qui tout à coup s'est trouvé placé à une ligne hiérarchique parentale alors qu'il était enfant, mais aussi à ses frères et sœurs qui du coup peuvent se trouver en rivalité, voire même en insoumission à l'égard de cet enfant qui donne des ordres ou qui en tout cas donne un soin, une attention qui ne lui est pas due dans cette responsabilité. Donc effectivement, c'est des situations qui ne sont pas parfois évitables. Je pense à plein de situations où il y a un des parents qui est malade, qui est dépressif, je parlais de situations de chômage ou autres, qui sont difficiles à assumer et où un des enfants a le souci d'aider le parent valide pour le soutenir dans toutes ses responsabilités. Ce qui est très généreux de sa part, mais en même temps, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place d'enfant, il a peut-être d'autres choses à vivre. Et ça peut être aussi une rivalité à l'égard des frères et sœurs qui ne demandent pas à leurs frères ou sœurs d'avoir une responsabilité parentale, de les engueuler ou de leur dire ce qu'ils doivent faire le soir pour faire leurs devoirs.
Mais c'est peut-être aussi le père qui est loin ou qui soit n'est pas là au niveau professionnel, par exemple, et donc la mère a besoin et demande, celui qui est l'aîné ou le second, prennent ça en charge.
Tout à fait.
Et l'enfant n'a pas d'autre choix que de le faire.
Tout à fait.
En fait.
Il y a des parfois, ou bien les grands-parents, comme vous disiez tout à l'heure, votre mère, au moment de des naissances des enfants, elle se faisait aider par sa propre mère qui venait là dans la maison. Et pourquoi pas, pourvu que les choses elles soient claires et que les personnes ne soient pas enfermées dans cette ligne hiérarchique qui n'est pas la leur, qui n'est pas leur ligne hiérarchique d'identification.
Je vous propose maintenant de faire une pause musicale et puis nous nous retrouvons juste après avec Jean-Paul Sauzède pour reprendre la suite de notre conversation.
« Papa est un poète, à ce que dit maman. Des oiseaux plein la tête, mais pas de jugement. Maman lui fait la guerre et dit qu'heureusement, elle a les pieds sur terre. Comment faire autrement? Papa, de temps en temps, s'en va dans les nuages pour cueillir des images. Nous sur terre on l'attend, et quand il nous revient, tout barbouillé de lune, on le coiffe de plumes pour jouer aux Indiens. Papa est un artiste, maman le dit souvent, il toise en fataliste tous les moulins à vent. Maman le vitupère et dit avec éclat qu'elle a les pieds sur terre. On le savait déjà, papa ne répond rien, mais il sourit aux anges, plus rien ne le dérange, tellement il est loin. Et quand il nous revient du pays des merveilles, il nous chante à l'oreille un merveilleux refrain. Papa est un bohème, maman le dit toujours, il n'a pas de problème et vit au jour le jour. Maman se désespère et dit que par bonheur, elle a les pieds sur terre. On le savait par cœur. Et nous, entre les deux, maman, la réaliste, papa qui lui résiste, et nous on est heureux. Comment faire autrement au pays de Voltaire, avec les pieds sur terre et les yeux dans le ciel? Comment faire autrement au pays de Voltaire, avec les pieds sur terre et les yeux dans le ciel?
Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus 103.2 avec Jean-Paul Sauzède pour l'émission À la famille Quai Bazar. Vous nous écoutez peut-être en DAB+, ou bien sur le 103.2 ou sur notre site par nos podcasts. Alors, au niveau de ces hiérarchies, donc, ça a pu bouger aussi quand même avec le temps. Tout à l'heure, quand j'évoquais le fait que la société, en tout cas, d'une certaine époque, ne concevait pas que le père ne soit pas chef de famille et n'ait pas, je dirais, plein pouvoir. Mais maintenant, est-ce que ces choses-là ont changé? Est-ce que vous constatez dans les familles que vous recevez ou les couples qui viennent, par exemple, ce genre de difficulté dû peut-être au fait que les frontières, justement, ont bougé?
Alors, ce n'est pas les frontières qui ont bougé, c'est les fonctions qui ont bougé.
D'accord.
C'est-à-dire, on est là vraiment dans la question de qui fait quoi pour qui et qui décide quoi pour qui. Traditionnellement, l'homme était dévolu à certaines responsabilités, la femme était dévolue à d'autres responsabilités. Et aujourd'hui, effectivement, ça bouge. Mais chez beaucoup de couples, la parité, une forme de fonction symétrique s'est établie. Et pourquoi pas? Pourvu que les choses elles soient claires, qu'elles soient nommées et qu'elles soient repérables pour tout le monde. Parce que si on attend que maman fasse la cuisine parce que c'est une fonction traditionnelle, mais que c'est papa qui le fait, mais qu'on ne le savait pas et qu'on ne le disait pas, et qu'on n'arrête pas de s'étonner en disant « bon, c'est toi qui fais la cuisine », bon, ce qui sont des remarques complètement ridicules, mais quand les choses ne sont pas suffisamment établies, à un moment, ça peut créer une sorte de perturbation, d'insécurité au sein du système, qu'on ne sait pas qui assume quoi, qui fait quoi au sein de ce système-là. Et dans nos confédérations conjugales aujourd'hui, où les fonctions sont souvent partagées, fonction de parents, fonction du soin, du care, des fonctions qu'on disait maternantes, mais que les hommes sont tout à fait aussi capables de faire, fonction d'autorité, que les hommes traditionnellement assumaient, mais les femmes sont tout aussi capables de le faire. Il y a une sorte de redistribution des fonctions, des responsabilités au sein de la famille qui est complètement intéressante parce que ça nous met dans des rapports d'égalité, de symétrie ou de complémentarité qui sont bien plus dynamiques, mais qui demandent à être réexplicités pour que chacun s'y retrouve et que ça ne génère pas une forme d'insécurité et de doute sur qui va faire quoi.
Parce que ça a beaucoup changé au niveau de la vie actuelle. Les deux parents travaillent en général. Donc, quelquefois, ils travaillent même dans des villes différentes. Ils se retrouvent, par exemple, le week-end ou pour un long week-end ou la moitié de la semaine. Voilà, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, les choses, effectivement, doivent être clarifiées souvent. Ça doit être souvent que l'on doit, en famille, expliquer, réexpliquer des choses, se repositionner.
C'est des choses qu'on n'explique pas assez, mais qui infusent au fur et à mesure de la vie de la famille. On le sait, voilà, on apprend. On a vu que papa est souvent absent. On a vu que maman adore son travail et qu'elle peut rentrer très tard. On a vu que ben, le samedi, c'est le père qui fait la cuisine, mais que le dimanche, c'est maman. Puis qu'en semaine, ben, chacun se débrouille. C'est une culture qui s'infuse petit à petit, qui s'établit. Mais plus c'est explicité, plus ça va faciliter les rapports familiaux. La difficulté, c'est quand les choses ne sont pas suffisamment explicitées et nommées.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme... comment dire, pas des conseils, mais des,
si, on
des tuyaux
donner,
pour que ça fonctionne bien.
Oui, mais le premier tuyau, peut-être, c'est de ne pas hésiter au sein d'une famille à faire des conseils de famille. Alors, ça paraît un peu ambitieux, mais c'est de dire, bah, peut-être une fois par mois, en tout cas régulièrement, de se dire, bah, tiens, comment elle va notre famille? Est-ce qu'on a des choses à se dire qu'on ne se serait pas dites quand on s'est engueulé samedi dernier, quand on s'est attendu l'autre jour à la sortie de l'école, qu'est-ce qui s'est passé quand l'autre jour t'as fait la tête, juste d'aller remettre des mots sur des événements qui ont été un peu, qui ont froissé, qui ont pu un peu blesser, et d'aller s'expliquer mutuellement. Ça me paraît important, et se donner un bâton de parole, pour pas que tout le monde parle en même temps, parce que ça on sait bien faire, mais non, c'est que chacun parle à son tour. Apprendre à s'écouter, c'est vraiment précieux, et dans les familles on n'a pas toujours appris, on apprend à parler, mais on n'apprend pas nécessairement à s'écouter. S'écouter, c'est parler à partir de soi, c'est aussi parler de ce qui se passe, c'est parler donc des faits, c'est parler de l'effet des faits, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, ce que tu m'as dit, ce que nous avons partagé ou pas ensemble, parler des faits, parler de l'effet des faits, et puis dire qu'est-ce que ça me donne à penser, à vivre ou à imaginer de notre relation. Je crois qu'il y a besoin d'apprendre des principes, ce qu'on appelle la communication non violente, qui est vraiment parler à partir de soi, en jeu, plutôt que de parler de l'autre, en tu, le tu qui tue, ce tu qui assassine l'autre, parce qu'on a vite fait de mettre des jugements, de mettre des accusations, de mettre des reproches, ce qui n'arrange rien. Parce que accuser l'autre en tu, ça provoque aussitôt une partie de ping-pong. L'autre va se défendre, va renvoyer une accusation. Sur quoi il va se renvoyer une accusation, et on est parti dans un jeu de ping-pong qui n'avance rien, qui ne sont que des suites d'invectives ou de reproches, mais qui ne construisent pas la relation. Donc c'est vraiment être attentif, et là peut-être c'est la fonction des parents aussi, à dire bah non, on parle à partir de soi, on parle en jeu, qu'est-ce que tu as vécu, comment c'était, ça t'a fait quoi, t'as été triste, t'as été heureux, c'est quoi qui nous a plu cette semaine, et parler de la vie familiale, de nos interactions, du système familial tel qu'il se vit. Avec ce modèle tout simple de parler à partir de soi, de dire les faits, donc qu'est-ce que j'ai vécu de façon assez objective, factuelle, parler de ce que ça me fait, l'effet des faits, et puis de ce que ça me fait vivre, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux en dire de la vie de ma famille, de moi, de ma place dans cette famille.
Et quand ça va pas,
ça arrive.
Quand la famille ne fonctionne pas, quand on ne se parle pas, qu'est-ce que ça peut générer? Il y a peut-être des choses plus ou moins difficiles.
Tout ce travail là, dont je suis en train de vous parler, il vient beaucoup des thérapies familiales où on s'est aperçu qu'en thérapie familiale, les parents amenaient souvent un enfant parce qu'il avait un problème. Alors le problème, ça peut être qu'il fait de l'absentéisme, il loupe l'école sans prévenir, Et puis un jour, les parents sont appelés par le proviseur en disant « Ah, votre fille n'est pas venue à l'école depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe ?» Et les parents découvrent. Ça peut être une histoire de vol dans le porte-monnaie de la maison, hein, d'argent. Ça peut être une histoire de mensonge. Ça peut être de la colère, ou voire même de l'agressivité d'un des enfants sur un autre ou sur les parents. Parce qu'il y a des parents qui se font battre par leurs enfants. Et on s'est aperçu que c'était pas très efficace de travailler avec cet enfant seul, mais que c'était plus efficace de travailler avec l'ensemble de la famille. Et que l'enfant n'était pas en soi le problème, mais qu'il est le symptôme d'un problème qui est ailleurs. C'est-à-dire qu'il est le signe apparent, la face émergée de l'iceberg, de quelque chose qui est caché, enfoui, et qu'on ne voit pas a priori, parce que c'est comme si l'enfant, en faisant sa bêtise, en faisant ses absences, ses mensonges, criait quelque chose qui dysfonctionne au sein de sa famille, mais qu'il avait des mots maladroits, des gestes maladroits, et souvent et parfois agressifs, hélas, pour dire y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Aidez-nous parce que ça dysfonctionne. Et la manière de dire ça dysfonctionne, c'est dans ces symptômes d'agressivité, d'absence, de colère ou autre. Et du coup, on s'est aperçu que c'était bien plus intéressant, plutôt que de travailler avec les enfants indépendamment, de les prendre seuls en thérapie, de prendre le système familial et de regarder où est-ce que ça dysfonctionne. Peut-être dans les hiérarchies, peut-être dans les frontières, peut-être dans des défauts de communication, peut-être dans un projet qui n'est pas clair ou trop incertain, et d'aller regarder tout ça.
Donc il faut prendre le temps de s'écouter, de se regarder, d'être attentif.
Oui. Prendre le temps de se parler.
Oui, voilà. Et donc, s'il y a des symptômes trop importants, ben, il faut...
Il ne faut pas hésiter à se faire aider.
Il
ne
faut pas hésiter à aller rencontrer quelqu'un, parce que sinon les choses peuvent...
Peuvent se détériorer.
Se détériorer tellement qu'après ça fait
ça fait des vrais problèmes.
Ça fait, voilà, des vrais problèmes et qui sont...
Dont souvent les enfants
sont... Des gros nœuds.
C'est ça, dont souvent les enfants sont les premières victimes.
Oui, c'est ça, oui.
Parce qu'ils sont les plus sensibles, sans doute, à ce système qui se déploie et qu'il y a quelque chose d'insupportable pour eux qui fait que ça crie. Ça crie physiquement, ça crie psychiquement, ça crie en vrai, et ils le manifestent.
Et puis après, ça peut aussi générer des divorces, donc ça, c'est après, c'est
après,
le
c'est
couple.
Autre chose, voilà,
ça se répercute sur chacun et c'est compliqué. Alors, comment est-ce que nous pourrions conclure ce temps de partage pour qu'une famille soit saine? Donc, il faut regarder ces quatre items.
Voilà.
Le projet, les frontières, les hiérarchies claires dont nous avons parlé, les fonctions claires de chacun. Et donc, ça, ça nous permet d'évaluer le fonctionnement d'une famille. Bien sûr, je pense que chaque personne d'une famille ne va pas se casser la tête à faire ça tout le temps.
Non.
Mais de temps en temps, il faut faire attention aux signaux.
De s'interroger en se disant, tiens, ben, qu'est-ce qu'il en est dans mes... D'abord, c'est quoi notre projet de famille là? Est-ce qu'on a un projet dans notre famille? C'est quoi qui nous pousse ensemble? Et puis, comment ça fonctionne, les frontières? Est-ce que c'est suffisamment clair au sens? Est-ce que c'est suffisamment explicite? Et qui fait quoi dans notre famille? Tiens, est-ce que c'est suffisamment explicite? Est-ce que c'est sécurisant pour chacun de savoir où est chacun, qui fait quoi et comment ça fonctionne entre nous? Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est d'aller mettre des mots sur qui nous sommes, comment nous sommes et est-ce qu'on est heureux ensemble.
Très bien. Donc nous avons fait un petit tour d'une structure de la famille avec Jean-Paul Sauzet et vous êtes sur Radio Alliance Plus 103.2. Je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter en DAB+ ou bien aller sur notre site radioallianceplus.fr et nous écouter et écouter bien d'autres choses encore que vous ne connaissez pas. Eh bien, merci Jean-Paul Sauzet.
Merci Christiane.
La prochaine fois, je crois que nous nous retrouvons le mois prochain. Nous avions l'intention de parler des familles recomposées. Peut-être bien, peut-être...
Mais oui.
Voilà, c'est un sujet important. Et nous essaierons de suivre notre programme, parce qu'il y a tellement à dire.
Voilà.
Voilà.
On va avancer avec l'humeur du temps.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul.
Avec plaisir.
Au revoir.
À bientôt.